Excellent débord d'onde déjà. On va bien aller en onde.
Un autre. Prise 2.
Ben non, mais t'es. Nate a amené un bon point. Je suis débordé. Êtes-vous débordé? 418-971-1021. Si oui, pourquoi? C'est votre boss qui vous arrive avec des projets que vous faites. Hé, j'ai pas le choix de dire oui. Mais call-in que j'ai pas le temps. Sur votre personnalité, parce que moi et Antonine, on en parlait, notre personnalité où on est des gens qui ah, t'as ce projet-là, donc ben cool, j'embarque.
On dit oui, nous.
Oui.
On est des yes-men. Hey,
on est trois, là.
Ah ouais, toi aussi.
C'est ça. Fait qu'êtes-vous débordé à cause de ça? Êtes-vous débordé parce que votre blonde ou votre chum dit « Ouais, il y a une liste à la maison, puis là, tu t'y mets. » Ça, je sais que tu fais ça avec ton chum, Anto, en passant.
Ah, les listes, oui, ça, ben, absolument. C'est nécessaire pour la survie du couple.
Oui.
Est-ce que vous connaissez aussi des gens qui se vantent d'être débordés? C'est pas du tout ton cas, Nathan, oui. Je te rassure. Mais du monde qui se valorise, sont tout le temps plus dans le jus que les autres, là.
Ah, épouvantable. 418-971-1021, dropper des noms, le dira pas en nombre, mais on veut en savoir quand même. Ah, épouvantable. J'en ai tellement connu dans ma vie. De ce monde-là, que là, tu regardes ce qu'ils font à job, tu regardes ce que toi, tu fais. Toi, tu te plains jamais que tu es débordé. Tu embarques, tu as tes objectifs, tu as tes missions, tu y vas, tu te plains pas, tu as le sourire. Bon, tu dis comment ça va bien, puis c'est vrai que ça va bien. Puis là, tu en regardes d'autres à côté que tu te dis. Tabarouette, quand est-ce qu'ils vont réussir à faire une tâche?
Ils sont tout le temps tête dans l'eau, là, puis
oui.
Tu dis, est-ce qu'ils sont bien organisés, ce monde-là?
Ben, c'est du monde désorganisé,
c'est sûr.
Simplement. Et c'est aussi...
C'est beaucoup dans le paraître.
Ben oui, parce que ça paraît bien.
Le point que vous amenez est bon de... J'en ai des gens comme ça dans mon entourage. Je pense à quelqu'un en particulier, évidemment, je le nommerai pas, mais c'est ça. Il n'y a jamais rien qui aboutit. Jamais dans... En... 15 ans d'amitié, je me souviens avoir une discussion pour faire comme « Hey, ça c'est fait, là on passe à d'autres choses. »
Ben oui!
Jamais.
Exactement. Et puis moi j'ai connu ça, puis là je m'excuse. Je vais nommer une profession. Et je le sais que c'est pas 100% des gens qui font cette profession-là qui sont comme ça. Mais je l'ai vécu avec du monde du domaine de l'enseignement. Où ils s'assinent, c'est le qui est le plus débordé. Non, la quatrième année, c'est bien plus tough parce qu'il y a des examens du ministère. Ouais, mais ça paraît que tu n'enseignes pas à sixième, faut que j'y prépare au secondaire.
C'est un concours, là, si je comprends
ouais,
bien.
Ouais, mais moi, je suis en secondaire 2, crime. Ils arrivent pourris, les maths, puis j'enseigne les maths. Si vous saviez récupérer ça, je ne sais pas. Ils s'assinent à savoir c'est qui est le plus débordé selon leur niveau. Hey, les enseignants, en passant, on le sait que vous faites un job extraordinaire.
Je les
admire.
Vous êtes
avec nos enfants. Hey. On vous admire. Hey. On le sait que vous êtes obligé de faire du travail à la maison. Pas besoin de vous compétitionner entre vous autres. Vous êtes toutes débordées. C'est simple.
C'est toute la gang.
Puis vous autres, on vous croit.
Ben oui.
Aussi simple que ça.
C'est toutes des tâches qui sont différentes, c'est ça. T'sais, autant un professeur de maternelle, là, c'est débordé un professeur de maternelle. Là. Une classe de 20-25 élèves de 4-5 ans, là.
Ah!
Honnêtement, je suis prêt à me lancer le défi. D'essayer de faire juste une période.
Ah, c'est bon, ça, s'il y a une école qui veut éviter Nathan.
Juste une période, pour le fun. De l'essayer, voir à quel point je sors de là, d'après moi, puis ça me prend un papier du médecin. Je tombe
moi,
en arrêt de travail.
Je vais m'asseoir avec mon popcorn, puis je vais te regarder.
C'est ça. Écoute, ça me fait plaisir. Hey, c'est admirable, là.
Non, c'est admirable. Moi, je coach au hockey, puis j'adore coach au hockey, mais tu sais, c'est 2 à 3 fois par semaine pour 1 heure et demie de gestion d'ado. Puis ça... C'est correct. Ça fait mon bonheur.
C'est assez.
J'en prendrais pas plus. c'est pour ça que j'aime ça. Mylène, c'est tellement bon. Le pire sont ceux qui se plaignent sans arrêt d'être dans le jus, mais dès que tu les croises au bureau, ils jasent, ils mangent, ils racontent leur fin de semaine.
Ceci explique cela.
Oui, c'est ça. Fait que là, t'es dans le jus, mais dans ton 8 heures de travail dans le jour, t'as passé 4 heures à raconter que ta petite, elle commence à marcher.
Il y a un problème de productivité.
Oui.
Chez certaines personnes. Regardez, qu'est-ce que vous mettez comme temps dans chaque chose?
Clairement.
L'optimisation. Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Ben oui, optimisation.
T'sais, je suis de ça un peu. Là. Je suis de ces personnes-là un peu. Je vais me laisser distraire vraiment facilement. Je pense que les espaces de travail à air ouvert aussi, certaines personnes, ça va jouer énormément.
Oui.
Là, mais... Je finis par être capable d'être dans ma bulle. Ça, je suis capable de le faire maintenant. Mais si quelqu'un vient me parler, on revient au yes man, yes woman de tantôt. Là, si quelqu'un vient me voir pour me dire, t'as-tu deux petites minutes pour
tu vas pas dire non, je suis dans le jus.
J'ai de la misère à faire ça. J'ai de la misère à faire comme, hey, non, pas tout de suite. Fait que là, tu défocuses complètement. Là, tu parles avec la personne. Puis là, le temps de te remettre dans la tâche que tu faisais, whoop. Là, s'il y a une autre conversation de l'autre bord qui passe, ça se peut très bien que mon cerveau parte en vrille. Puis là...
Ça, je remercie mon patron Fred au RTC qui m'a cassé là-dessus. Mais tu sais, là, j'ai été un employé là, qui le défiait. Là. Non, 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 moi, je suis de même, puis ma porte est ouverte, puis si le monde veut venir me voir, c'est ma personnalité, ta. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ouais, mais c'est parce que Jeff, tu joues au psychologue 6 heures par jour, je t'en paye 8 pour que tu sois productif.
Ouais. C'est pas dans tes objectifs.
Exactement.
D'écouter tout le monde, leur trouver des solutions, de les entertainer.
Mais c'est ce que moi, j'adore faire ça.
Ben, c'est sûr.
Moi, j'adore ça. Puis même des fois, je tape ses nerfs à ma blonde, puis avec raison, parce qu'elle m'arrive avec un problème, moi, j'arrive tout de suite avec une solution.
C'est ça.
Mais là, j'ai pas besoin de la solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ouais, mais je t'écoute, je te propose une solution, mais c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas ma solution.
C'est dans ta personnalité, puis c'est
mais
correct.
Mais c'est le même.
Mais c'est vrai que, tu sais, on n'a pas des jobs de télétravail, ben.
Non.
Mais pour focusser puis être productif, tu sais, à chaque fois que quelqu'un te sort de ton moment focus, ça prend plusieurs minutes avant de se reconcentrer.
Ben oui.
Et d'ailleurs, les notifications, tu sais, on en reçoit Messenger, Instagram, toutes les plateformes de médias sociaux, les courriels, les Teams, les appels. Et à chaque fois qu'on regarde nos notifications, on recommence à zéro à rentrer dans notre concentration.
J'avais
c'est
déjà lu une étude là-dessus, ça prend 7 minutes à se remettre dans ton travail adéquatement, 100% concentré, si ça a fait « ping », puis là, ça dit « ah, c'est
on se fait déranger beaucoup plus qu'une fois aux 7 minutes, alors
ben
jamais
oui.
on atteint un niveau de concentration.
Jamais.
Incroyable, hein?
C'est fou.
Non, là, comprenez maintenant.
Ouais.
Hey, comprenez.
Je veux vous parler d'un autre sujet aussi, puis les auditeurs continuent à réagir comme vous le faites, 418-971-1021. Puis je veux juste revenir. Félicitations, premièrement, à la communauté à Montréal-Nord hier qui a fait une manifestation sans grabuge.
Effectivement.
Très, 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 très fiers de la communauté. Ils ont prôné par l'exemple. Ils sont victimes de gestes de violence de la part des policiers, puis eux n'ont pas utilisé la violence. Félicitations. Mais vous en pensez quoi de certains médias qui n'osent pas parler de la situation parce que j'ai l'impression que... Pas j'ai l'impression, j'ai la certitude qu'eux autres... ce que les policiers ont fait, ça les dérange pas trop, mais que si jamais il y avait eu un geste de violence d'un manifestant hier, ils auraient fait leur émission de radio complet là-dessus pour dire « Voyez! Les policiers sont de même, c'est à cause d'eux autres! » Je trouve ça épouvantable.
Peut-être. C'est un bon point, quand même, de à quel point on va reprendre un détail pour le tourner à notre avantage ou au désavantage du groupe de manifestants. Je pense que j'ai l'impression que ces gens-là se sont parlé hier, là, malgré le fait qu'il y avait un grand rassemblement, puis tout le monde s'est attendu sur le fait que, tu sais, il faut absolument comprendre par l'exemple.
Clair.
On peut pas riposter.
Non, ils ne pouvaient pas l'échapper.
La meilleure façon de riposter, c'était ce qu'ils ont fait hier, effectivement. Puis je pense que, oui, il y a possiblement des langues sales, on va dire les vrais mots, là, qui, s'il y avait eu débordement, il y a probablement des langues sales qui en auraient profité pour mettre ça en gros titre ce matin un peu partout aussi. Mais garde, heureusement, dans tous les cas, c'est pas arrivé. Fait que tant mieux. C'est
bonne
une bonne
nouvelle,
chose.
Faut le souligner.
Ben oui.
La vraie honnêteté intellectuelle, c'est d'être capable de dénoncer la violence, peu importe si c'est le groupe qui, d'habitude, c'est celui que tu aurais tendance à supporter.
Exactement.
Ou si c'est un autre groupe. Si tu justifies des gestes de violence parce que tu as une opinion favorable d'un groupe et que tu dénonces des gestes de violence parce que tu as une opinion défavorable d'un autre groupe, ben t'es juste malhonnête intellectuellement.
Je suis clairement d'accord avec toi. Tu sais, moi, honnêtement, je l'ai dit hier, les gestes de violence des policiers, et là, ce qu'on sait à l'heure actuelle, on va sûrement en savoir plus, n'ont pas la place dans notre société. Puis c'est pour ça que je salue grandement la communauté de Montréal-Nord qui a fait une manifestation pacifique hier. Mais si la communauté avait décidé de scraper le poste de police, moi, j'aurais dit que ça n'a pas sa place.
Tu vois, on vient de donner un bon exemple juste en ondes là. Tu sais, l'explication d'Antonine, justement, était très réfléchie, très bien amenée, alors que moi, j'ai dit langue sale. Tu vois, c'est pas, j'ai fait exactement la même chose que ce qu'on reproche des fois à ces médias-là.
En effet.
Donc, tu vois, j'ai même pas su prêcher par l'exemple moi-même. Merci, Antonine, pour la
ben
belle...
Non, ben non. Non, mais ça fait des meilleurs clips, dire des langues sales, tu vois.
Ouais,
c'est meilleur.
C'est
ouais. Non, on va souhaiter que ça continue à bien se passer. Là, il y a un enquêteur, une personne indépendante qui a été nommée dans le dossier pour suivre l'enquête. On va souhaiter que ça donne des bonnes conclusions, que ça donne un rapport qui ne sera pas tabletté, puis qu'on va pouvoir réussir à se réconcilier tout le monde, à rebâtir les ponts. Ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile, parce que ça fait des années que les communautés crient justement au racisme systémique dans les interventions policières. Il y a des statistiques, là, hier on a parlé avec Vicky Powell, c'est disponible sur blvd.fm, mais des statistiques quand même assez alarmantes là-dessus concernant le nombre d'interventions par capita. Alors, on va souhaiter que cet événement-là, qui n'a pas de sens, puis qu'on n'aurait jamais souhaité connaître au Québec, ait des retombées positives. Des fois, on part d'une tragédie ou d'une perturbation majeure pour tomber sur nos pieds puis avancer. On va souhaiter ça.
T'as raison, mais en même temps, puis je veux pas être cynique, mais il y en a déjà eu un événement comme ça dans la communauté de Montréal-Nord. C'est l'assassinat, le meurtre de Freddy Villanueva.
C'est vrai. Hey, ça remonte déjà à 2008.
Oui, puis je trouve que ça augmente la pression pour que des actions rapides soient prises parce qu'on en connaît beaucoup déjà des constats. Donc, tu dis, j'espère que le rapport ne sera pas tabletté. Il ne peut pas être tabletté. Mm-hmm. On en a déjà tabletté des rapports puis des solutions pour Montréal-Nord.
T'as raison. T'as entièrement raison. Puis merci à un auditeur, une auditrice qui nous écrit. Selon moi, à partir du moment où tu fais de l'actualité sélective, c'est malhonnête. Mais en effet, puis c'est pour ça qu'ici à Boulevard, on vous parle constamment des deux côtés de la médaille, puis on vous exprime constamment, justement, nos opinions qui peuvent être divergentes. On a eu un bon exemple l'autre jour sur les lanceurs d'alerte.
Oui, quand même.
On s'entendait pas.
Puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous nous écrivez. On lit tous vos commentaires.
Oui.
On essaie d'en passer le plus possible en ondes, mais vous participez à ces débats-là. Je pense qu'on le fait
clairement.
De bonne façon.
Clairement. Oui. Nathan Meilleur, trois petites manchettes avant qu'on passe au caucus avec Antonine Iaccarini. Parce qu'il faut absolument parler de... T'sais, on disait toujours l'expression la belle-mère, mais là, c'est les beaux-pères.
Ah oui.
C'est Christian Dubé, c'est François Legault qui, là, ils veulent tellement parler encore.
Oui, ils ont beaucoup à dire.
Ah oui, puis ils ont toutes les solutions. Ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais eu de solution, mais ils ont toutes! Puis écoutez-nous, ça va bien aller au Québec. OK, on a 3 manchettes avant qu'on divague un peu sur eux.
Ben oui, certain. Écoute, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est le nombre de morts sur la route qui a grimpé de 88% quand même en 2025. On peut lire ça là, du côté du Journal de Québec. C'est la capitale nationale qui paraît pas bien du tout parmi les régions du Québec avec cette hausse-là importante des décès sur la route en 2025 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. C'est le plus récent bilan routier, évidemment, de la SAQ qui est sorti, ça a été dévoilé ce matin. Les résultats de compilation annuelle qui démontrent que la Ville de Québec et ses environs a de très loin une augmentation qui est marquée. Presque à elle seule, la région tire le bilan québécois des blessures mortelles vers le haut. On parle d'une hausse de 0,7% qui est causée juste par nous, là, ici. Donc, selon le bilan routier 2025, la capitale nationale est l'une des seules où tous les indicateurs sont à la hausse. Des blessures graves qui ont augmenté aussi de 15,9%. J'entendais une entrevue un peu plus tôt, justement, avec nos collègues là, sur l'antenne de Boulevard. Les jeunes sont beaucoup représentés, malheureusement, dans ces accidents-là, alors que pourtant le pourcentage de jeunes ayant un permis de conduire est beaucoup moindre. On a posé la question aussi par rapport à nos infrastructures, l'état des routes. Est-ce que ça a un enjeu par rapport à ça? Oui, non, non, oui. Ça reste quand même que c'est le comportement humain qui va avoir une incidence majeure. On parle encore évidemment d'intoxication, donc d'alcool au volant, de drogue au volant. On sait qu'avec la légalisation du cannabis, on est encore en période d'adaptation, mine de rien. Avec tout ça, maintenant, les policiers ont des outils pour voir si quelqu'un est intoxiqué par le cannabis. Ça semble pas être tout à fait parfait. Puis ce qui m'a vraiment frappé là-dedans, là, dans ces chiffres-là, là, c'est la fatigue au volant.
Mm-hmm.
À quel point la fatigue revient encore énormément. Puis on a été capable de prouver de façon scientifique dans les dernières années que quelqu'un qui est très fatigué au volant, ça représente la même chose que quelqu'un qui a les facultés affaiblies.
C'est dangereux.
Fait que si vous prenez le volant fatigué, c'est peut-être l'équivalent d'avoir bu 5, 6, 7 bières avant de partir puis de prendre le volant. Fait qu'évidemment, ça, ça retient beaucoup l'attention.
Hey, dis-moi donc, puis je fais une parenthèse parce qu'on a beaucoup de textos là-dessus depuis ce matin. J'en ai un. Je passe 60-70 heures par semaine dans le chemin. Il y a beaucoup plus d'immigrés dans nos chemins. Mais t'as pas nommé de cause reliée à l'immigration là-dedans? T'as nommé de la fatigue, non. L'alcool, la vitesse excessive?
Bon point.
Tu sais, quand on a ces fameux préjugés-là, là,
les ouais,
fameux
là...
préjugés. Puis là, tu sais, ceci dit... Moi aussi, j'ai envie des événements avec
ben oui.
des personnes qui ont un permis temporaire.
Il y a des aspects
temporaire.
Culturels aussi dans
Puis
la conduite.
Il y a un aspect culturel, ben oui. tout ben oui. le quitte. Mais dans les accidents, moi, je tiens à le spécifier, il n'y a pas de hausse parce qu'il y a plus d'immigrants sur le chemin.
Parce qu'on parle de blessures graves, d'accidents.
C'est
ici.
Des comportements dangereux qui sont faits. Puis là, pardonnez-moi, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, puis ça ne me dérange pas, 418-971-1021, qui sont faits par des Québécois de souche. C'est le petit gars de 18 ans qui décide de chauffer trop vite ou chaud. C'est le Jeff Fortin, parce que ça, ma blonde m'a parlé là-dessus, puis elle a raison, qui décide de conduire fatigué. Mm-hmm. Puis elle dit, hey, dans ce temps-là, tu me donnes le volant, man, je te vois cogner des clous. Mais moi, je veux être le super-héros qui amène la famille à bon port pour être tué la famille. Tu sais, fait que
ouais.
ça me prend un petit talk de ma blonde qui était juste parfait. Mais c'est ça. C'est des Québécois de souche qui font ces accidents-là par des mauvais comportements.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas de personnes immigrantes.
Mais alors, je ne sais pas s'il y en
plus.
A pas, Jeff, là, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est...
C'est pas ça, le facteur.
Exactement.
Il n'y a pas
c'est
une
pas
statistique
ça, le
probante, c'est ça, par rapport
en
à
plein
ça. Le port de la ceinture aussi, je ne peux pas croire qu'on parle encore de ça en 2026, mais ça, c'est un sujet qui a été justement mentionné en ondes hier, si je me souviens bien, avec nos collègues Max Larouche et Kat Bachan. Le fait que ça me faisait capoter, Kat racontait en ondes qu'elle connaît encore des gens qui attachent leur ceinture avant de s'asseoir sur le banc.
Mm-hmm.
Parce que là, maintenant, les autos détectent ça.
C'est
je sais pas si votre véhicule est comme ça, mais moi, si ma ceinture n'est pas attachée, je peux pas partir.
Ah,
il
ne
veut pas
ça.
Embrayer sur le drive, là, le char ou sur le reculon, ça ne marche pas. Ça... Ou sinon, le véhicule part, mais à un moment donné, il te freine ça d'en face d'un coup. Okay? Puis tu veux pas que ça arrive quand tu es en train de sortir de ton entrée au milieu de la route, mm-hmm. quand il y a des chars qui arrivent de chaque côté. Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui ne s'attachent pas.
C'est vrai.
En
ouais.
auto. Alors que...
C'est dur à comprendre.
Ben oui, c'est dur à comprendre.
Surtout que l'outil maintenant est ajustable d'à peu près partout.
Ben oui,
je sais pas si vous avez remarqué.
Quand
mais...
t'aises la ceinture, va te déranger.
C'est possible de l'ajuster, la hauteur, l'endroit sur le bord du banc. Bref, ça, ça fait beaucoup parler aujourd'hui. Clairement,
yes.
on va y revenir. Mobilité Infra Québec et CDPQ Infra qui démentent les affirmations du chef de Respect Citoyen, Stéphane Lachance, qui jugeait plausible que le tramway soit amputé de son tronçon en Basse-Ville pour respecter le budget de 7,6 milliards de dollars, pardon, les deux organisations qui assurent que le projet sera réalisé dans son intégrité, incluant le tunnel entre Saint-Roch et la Haute-Ville. Le tracé prévu de plus de 19 km reliera toujours Charlebourg à Sainte-Foy. Québec rappelle également que l'excavation du tunnel doit débuter dès l'été 2026, soit un an plus tôt que prévu. Fait que... Je l'ai bien dit. Là,
oh,
parce
on
que
va
ça...
en parler tantôt avec Elissa Despins, là, le oui. bonhomme 7 heures du tramway, Stéphane Lachance.
Puis,
on dirait que j'ai trop de choses à dire aujourd'hui. Je suis comme plus capable de plein de monde.
C'est le temps des vacances
ça
qui s'en vient.
Hein?
Non, non,
ça
mais je suis plus
hein?
capable des préjugés, ces immigrants puis les communautés ethniques. Je suis plus capable des vieux politiciens qui essayent de nous expliquer qu'il y avait la solution quand ils n'ont pas été capables de la mettre en place.
On devrait te faire un jingle, Jeff. Je suis plus capable.
Ah ouais,
plus capable de respect citoyen qui me parle du tramway.
C'est du radotage.
Je suis plus capable.
C'est du radotage.
Ah
ça,
ouais, non,
plus
non,
capable
c'est
du radotage. Puis
ouais.
tu sais, je connais des gens qui travaillent à l'interne là, pour le tramway. Encore là, sans nommer personne, vous comprendrez bien. Et des personnes que je connais qui ont été présentes lors de la rencontre, justement, avec Respect Citoyen, parce qu'il y a eu une rencontre entre CDPQ Infra puis le bureau de projet du tramway et Respect Citoyen, parce qu'on avait des questions à poser. Ça s'est super bien passé, cette rencontre-là.
Oh oui.
Ça a vraiment bien été. En tout respect, justement, tout a bien été. On sort de là, on a l'impression que tout va bien aller. Même M. Lachance était sorti en disant « On m'a mieux expliqué, je comprends le tramway, je vais lâcher un peu le morceau. » Et là, on ressort avec ça aujourd'hui. On vient jeter un pavé dans la mare,
oh
comme
non.
on dit, pour une information qui ne semble pas être vraie, du moins pour l'instant. Puis des travaux d'infrastructure, quand est-ce qu'on a entendu ça, que c'est devancé?
Ouais, oui, c'est
les travaux du tunnel.
On va en parler tantôt avec Elissa, parce que je veux pas trop voler de temps du
Parfait.
caucus, mais
je termine avec une série d'articles maintenant du côté du Soleil que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je sais pas si vous avez lu ça sur les cicatrices urbaines qui défigure le paysage de Québec. Premier article est sorti hier, je pense, mais on a décidé du côté du soleil de faire un magnifique travail. Il y a même une carte interactive, là. On s'est promené un peu partout dans la ville pour aller regarder différents bâtiments qui sont un peu laissés à l'abandon. Et là, vous voyez là-dedans, dans la mise à jour d'aujourd'hui, il y a le Pub Limoilou, entre autres sur la 3e avenue, qui est vraiment laissé à l'abandon depuis quelques années. Ça, il faut comprendre que le Pub Limoilou était un des derniers pubs de blues dans la ville de Québec, dans la grande ville de Québec, où il y avait des spectacles de blues à peu près à tous les soirs. Ça avait été acheté par un groupe...
Bon, je vais vous avouer, j'aime le blues. Bon. Fait qu'au moins, je suis capable du blues.
T'es capable du blues.
Une affaire positive.
Ça, c'est pas pire. Mais c'est un groupe de restaurateurs qui avait acheté ça pour en faire un restaurant sur la 3e avenue. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a un comptable qui avait volé beaucoup d'argent à ce groupe de restaurateurs-là. Ça a mis le projet sur pause. Ça, ça fait partie des infrastructures. On parle de l'ancien site de Gaétan Moto aussi,
oui,
qui est sur le boulevard Amel, Henri Bourassa, pardon, et l'avenue de la Canardière. Ça aussi laissé à l'abandon. Bref, allez faire un petit tour du côté du soleil pour lire cet article-là. On donne plusieurs exemples comme ceux-là, puis c'est fort intéressant. Évidemment, le Colisée Pepsi en fait partie aussi, à savoir quand est-ce qu'on va... finalement faire quelque chose avec cette infrastructure-là.
Le caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Meilleure façon d'écouter Le caucus, c'est notre application Boulevard 102.1. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Hey Anto! Plus capable qu'on parle du vieux Colisée. Ça fait 11 ans. On peut-tu juste, excusez-moi le juron, on peut-tu juste le crisser à terre pour faire d'autres choses sur ce terrain-là? Ça fait 11 ans.
Tu me fais rire aujourd'hui.
Mais non, mais comment ça, ça nous prend 11 ans pour démolir un édifice?
Ça prend beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses au Québec. Oh,
c'est épouvantable. Oui, puis tantôt, vers la fin de l'émission, je vais vous parler du Wallaby.
Oh, ça, là, c'est ma nouvelle préférée d'aujourd'hui.
Ah, oui,
mais et tu
wallaby.
Vas dire, comment ça se fait que ça prend autant de temps à pogner un kangourou, c'est ça?
Ben, écoute, quand je t'en... Ah non, c'est parce que l'extrait est long et long et long. Mais pour résumer, là, je vais vous le faire écouter tantôt. Shani Angie Cadorette, qui est une personne qui, justement, gère un refuge pour les animaux, est débarquée là, vendredi. Puis là, elle a appelé la faune. Puis elle a dit, hey, le wallaby est là, je suis à côté. Puis là, la faune, elle a dit, on fait pas de temps supplémentaire.
Ah, mon Dieu.
Fait qu'elle a redébarqué samedi. Puis là, elle a dit, je suis là. Puis en plus d'être là, je suis avec ma gang spécialisée qui capture des kangourous en Australie. Fait que, gars, on te le pogne. Ils ont dit, vous pouvez pas faire ça, vous avez pas de permis.
Vous avez pas le permis, madame.
Fait que là, elle a dit,
le permis C82-2.
Qui a le permis? Ils savent pas encore au Québec qui a le permis pour capturer un wallaby. Fait que c'est pour ça que le wallaby est encore là. Parce qu'on cherche qui a le permis.
Mais on le sait, c'est qui. Ça nous prend Arthur l'aventurier.
Ben, c'est ça.
Il est où, Arthur l'aventurier?
Zoo Miller est prêt à accueillir le wallaby. Ils en ont, des kangourous et des wallabies. Ils sont spécialisés. Ils ont le permis. La gang...
Mais non, monsieur, c'est pas comme ça que
la
ça fonctionne,
gang,
monsieur.
La gang qui capture en Australie sont sur le bord de l'autoroute à Boucherville avec leur matériel. Eux autres, là, ils attendent juste le go, là.
Ça prend l'autorisation.
Puis, Shani Angie Cadorette, c'est une spécialiste. Elle a son refuge. Ils sont toutes là prêts à intervenir. Puis, la réponse du gouvernement du Québec, c'est « Vous avez pas le permis ». Puis le wallaby est encore sur le bord de l'autoroute. On est rendu mordi.
Ouais, ça serait plate qu'il arrive quelque chose entre-temps. Honnêtement, le gouvernement serait dans la chenoute parce
que... Ben là, Shani Angie est retournée sur les lieux aujourd'hui.
Oui.
Trouve plus le wallaby.
Ben c'est ça. Puis le problème, c'est que ça a l'air cute de même, un wallaby, là. Mais si ça prend peur, un wallaby,
ben oui,
ça peut partir assez rapidement, ben se blesser, ça, aller ben sur l'autoroute,
oui,
se faire frapper,
là, qu'est-ce qu'on va... Ben oui, ou qu'est-ce qu'on va avoir comme image? Un wallaby qui défonce une porte patio, comme on a vu un orignal l'autre
c'est
jour.
C'est mon rêve qu'un wallaby défonce ma porte patio.
Ben, c'est ça.
Excusez.
Non, mais imagine.
Je suis comme vraiment jalouse de ne pas être dans la région où il y a le wallaby. Là. J'aimerais vraiment ça, voir le wallaby.
Ouais, mais le danger, en fait, avec ça aussi, c'est que là, je fais un peu de surf avec ce que tu viens de dire, là. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont prendre la route en fin de semaine pour ça ou d'ici la fin de la semaine.
Tu vas joindre deux nouvelles, celle des accidents de la route et celle du wallaby.
Mais imagine, parce que tu sais, il y en a des wareux.
Ben oui.
S'il y a plus de gens qui décident de se déplacer pour se dire, hey, viens, on va aller le voir, nous autres, le wallaby. Puis
on va essayer de le pogner.
Ben, ça, faut pas faire ça.
Non, ne faites pas ça.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais je pense quand même qu'il faut le dire, là. C'est un peu comme attacher votre ceinture de sécurité, là, même si c'est logique, il y a quand même des gens qui vont peut-être s'essayer, là.
Hey, le Québec. Le Québec. On n'est pas capable de
Mais c'est de, c'est de la faute du Wallaby, là. C'est quoi l'idée de se sauver en dehors des heures ouvrables du ministère de la Faune?
C'est vrai, ça. Maudit Wallaby.
Il aurait pu attendre à lundi.
Ben oui, puis c'est quoi cette idée de venir au Canada aussi?
Ouais, ça, je pense que c'était pas son
c'est
choix.
C'est quoi son idée de se faire braconner tant qu'à ça?
Ouais, exact.
Maudit Wallaby. La faute au Wallaby. Ben, selon toi que le gouvernement a dû. Veux-tu me dire qu'est-ce qu'il fait là, le Wallaby, qui se débrouille? Ouais, hey, on peut pas faire de temps supplémentaire. Vous n'avez pas le permis.
Oh mon Dieu.
OK, autre chose, je suis plus capable d'enquêter dans cette thématique-là. Hey, plus capable, moi, des vieux politiciens qui s'en vont, mais là, qui essayent de nous expliquer comment eux autres sont bons, sont fins, puis comment il faut changer le Québec quand ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir puis ils n'ont pas été capables. Je parle de François Legault avec la filière batterie. Puis là, je parle de Christian Dubé qui nous a pondu un document de 80 pages en disant « Voici ce qu'il faut faire au ministère de la Santé. » Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu étais là pendant 5 ans.
Ouais. Moi, je suis d'accord que d'avoir toutes les solutions quand tu es à la fin de ton mandat puis que tu t'en vas puis que tu as été là 8 ans, je suis tout d'accord avec ça. Par contre, j'ai pas trouvé ça inintéressant, les propositions, parce que Christian Dubé, comme ministre de la Santé, a quand même fait beaucoup de choses.
Je suis d'accord.
Ça a terminé en queue de poisson. Il s'est attaqué à plusieurs morceaux du système de santé, un après l'autre, et la cerise sur le sundae, c'était les médecins et la rémunération des médecins notamment. Et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et c'est ce qui a coûté finalement à François Legault, son ministre de la Santé, parce que Christian Dubé était fâché pendant les négociations avec les médecins que le gouvernement commence à reculer. Hein. Vous vous rappelez, c'était un affrontement, j'ai envie de dire, quasiment sanguinaire. Là. Les médecins ont toujours un levier de négociation très, très fort. Au début, l'opinion publique n'est pas avec les médecins parce qu'on trouve qu'ils sont gâtés et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais quand les gens ont vu les médecins qui commençaient à s'en aller en Ontario, l'opinion publique a complètement viré de bord et le gouvernement a voulu commencer à reculer et Christian Dubé ne voulait pas.
Trop fort casse pas. Ça, je pense que Christian Dubé l'a appris. Voici justement comment il a expliqué sa démission sur les ondes de Mario Dumont à LCN aujourd'hui.
Politique de retourner principalement vers le GAP, de créer un groupe qui va essayer de voir comment dans les prochains mois on va changer la rémunération. Et c'est pour ça que.
Et donc, on a cédé sur des essentiels. Ben moi, en termes de résultats pour le patient?
Selon moi, j'ai été très clair, puis j'ai pas démissionné pour rien. Si cette entente-là avait fait mon affaire, je serais encore là. Mais je trouvais qu'on s'était tellement éloigné de ça. Je l'ai dit, les fédérations, je dis bien, les fédérations ont bien joué leur carte dans le contexte du cycle politique. Ben, à un moment donné, moi, j'étais plus à l'aise et j'étais plus crédible pour continuer à travailler avec les médecins.
Toi, il touche un excellent point. Il était plus crédible, en effet, parce qu'il avait passé sa loi spéciale sous Bâillon. Puis ce qu'il expliquait au préalable, c'est qu'il disait, ben, tu sais, j'avais des commandes du Conseil de Trésor. Faut pas dépasser telle enveloppe budgétaire. Faut reprendre des droits de gestion. Faut donner plus d'accessibilité. Et là, il dit, le résultat de la négociation n'amenait pas, justement, ces objectifs-là de base.
Quand Christian Dubé dit qu'il avait perdu sa crédibilité, je pense pas du tout qu'il pense que c'est de sa faute avec son projet de loi. Moi, je pense que c'est le recul du gouvernement. Il s'est senti émasculé.
Oui.
Parce que Papa Legault a dit, ouais, ben, finalement, on va se calmer les nerfs un petit peu. Ton approche intransigeante, Christian, ça ne marche pas. On est en train de perdre l'opinion publique. On est en train de perdre plein de médecins. Donc, cette approche-là, elle n'a pas porté ses fruits. Puis là, ben, quand on écoute Christian Dubé dans ses entrevues, c'est comme s'il disait, il aurait dû m'écouter, ça aurait fonctionné.
Oui, mais non, ça n'aurait pas fonctionné.
Ben, c'est dur à croire. Il faut se rapporter, là, ben comment ça brassait.
D'ailleurs, on va voir Pascal Renaud tout à l'heure, justement, après la pause, président à Québec de la Fédération des médecins omnipraticiens. Puis, tu sais, l'approche Dubé ne fonctionnait pas du tout. Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui? On va tout poser ces questions-là à Pascal Renaud. Est-ce qu'on est mieux avec l'approche Bélanger? Mais chose certaine, si on utilisait encore l'approche Dubé, ben les médecins seraient en grève. On n'aurait pas avancé pour 2 cents.
Écoute, on le saura jamais, mais moi, j'ai des sérieux doutes. Puis, tu sais, on parle de l'approche Bélanger, parce que Sonia Bélanger est maintenant ministre de la Santé. Mais avant toute cette espèce de crise mélodrame dans les médias à la fin de l'année 2025, il y avait un travail qui était fait de négociation par le Conseil du Trésor. C'était Sonia Lebel à l'époque. Et moi, ce qu'on me disait, c'est que les négociations, là, on était très, très proche d'un accord et que Christian Dubé est arrivé dans le processus. Puis il a mis le point sur la table et il a dit « il n'y en est pas question ». Donc, c'est vraiment un affrontement de deux visions. Celle de vouloir tout changer très rapidement, puis de casser en quelque sorte un moule, ou d'y aller pas à pas et d'essayer d'aller chercher des améliorations. Honnêtement, les deux approches, je les comprends, mais avec l'aventure qu'on vient de vivre avec les médecins, je me rends compte que c'est très difficile de casser les médecins sans casser une quantité astronomique d'œufs dans le processus pour faire ton omelette.
Fait que tu vois, c'est pour ça que je suis plus capable des vieux politiciens qui arrivent et me disent « Hey, mon approche est meilleure que celle-là. » Ben non, ton approche n'a pas fonctionné.
Puis là-dessus, là, sa tournée d'entrevue à Christian Dubé, moi, son cahier de proposition, fort bien.
Oui, je l'ai lu ce matin. Hein?
Bon, très bien.
Ça fait du sens.
Mais après ça, d'aller s'auto-justifier dans les médias, honnêtement, je trouve que c'est craché dans la soupe.
Oui.
OK? Puis la CAQ, c'est la formation politique quand même pour laquelle il a œuvré pendant plusieurs années. Il peut être fâché s'il veut. Mais là, tu nuis ouvertement. Tu rappelles un échec de ton gouvernement. Puis, tu sais, je me disais, c'est vrai, on a quasiment oublié ça. T'as mis un passe d'affaires dans une année en politique ces temps-ci. Mais c'est quoi l'utilité? Il n'y a personne... Je comprends que ça finit en queue de poisson pour lui. Il a peut-être envie de contrôler le message. Mais pour vrai, les gens étaient un peu passés à autre chose.
Mais l'utilité, c'est son petit égo.
Ben c'est ça, j'ai l'impression que c'est personnel. Une affaire d'égo.
Hey, mon petit égo personnel, là, il a été écorché. Fait que là, je vais vous le dire, comment moi, je suis bon puis je suis fin. Parce que dans c'est mon égo, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, je suis donc bien beau.
Je trouve que j'ai vécu une grande injustice.
J'avais donc bien les bonnes idées, moi.
Puis c'est dommage parce que Christian Dubé a été populaire très longtemps. C'était un des ténors de la CAQ. Et même quand il y avait des crises épouvantables, on dirait que ça y coulait sur le dos. Les Québécois continuaient d'être derrière lui. Il y a pas mal de monde qui ont voulu croire à sa réforme de la santé, même s'il y avait, il y a énormément de cynisme, évidemment, des Québécois par rapport à leur système de santé. Là, il ressort. Moi, je trouve qu'il aurait pu laisser tout ça passer puis peut-être faire le bilan un peu plus tard, après l'élection. Veut pas aujourd'hui, là, il monopolise l'espace public. Il y a Christine Fréchette qui est à la tête de la formation politique que lui a portée pendant des années avec ses collègues, qui essaie de remonter l'affaire, puis tout sort pour roter du vieux sur. Excusez-moi. Je trouve que c'est ordinaire, pas mal.
C'est très, 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 très ordinaire. Hey, sondage, actualité, palace. Bon, plusieurs choses découlent de ce sondage-là. On a une course à trois. Mais moi, c'est-tu quoi? Je suis pas sûr que ça qu'on a une course à trois, Antonine, parce que avec le vote francophone, puis là, Charles Milliard aura bien beau nous pondre son plan pour le français cet après-midi. Le PLQ est pas dans la course pantoute.
C'est ça. Quand on regarde les intentions de vote, ça mélange évidemment francophone, anglophone, allophone. On a l'impression que le Parti libéral est pas si mal positionné parce que, bon, le PQ est à 29 % le PLQ à 25 % Mais on sait que c'est le vote francophone qui fait la différence.
C'est ça.
Puis la zone payante pour les libéraux, c'est en haut de 24 % là. Les libéraux sont à 15 % dans le vote francophone.
Fait que ça va rester le Parti de l'île de Montréal.
Bien, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, oui. Maintenant, on sait qu'il reste quand même 3 mois et demi jusqu'au scrutin. Il peut se passer beaucoup de choses. Et contrairement à 2022, où on savait que la CAQ allait gagner, là, il n'y avait comme aucun moyen que ça se passe autrement.
En effet.
Là, c'est très imprévisible. Et quand on regarde les résultats de ce sondage, il y en a beaucoup ces temps-ci des sondages, on en est conscient, mais ça a vraiment un impact dès que ça bouge d'un point. Parce qu'on regarde comté par comté, il y a des courses à 2, des courses à 3, des courses à 4 dans certains comtés. Ça, c'est extrêmement imprévisible. Il y a un peu des mauvaises nouvelles pour tout le monde dans ce sondage-là parce que, bon, le PQ est toujours au sommet des sondages, mais il y a le gouvernement majoritaire qui est en train de lui échapper. Ça peut encore évidemment changer. Et ce palace-là s'intéresse aussi à la question du TGV qui recueille un fort appui dans la population générale. Mais quand on regarde les électeurs péquistes précisément, c'est très divisé. Là. C'est du 45-45 pour, 45 contre. Donc, la sortie très, très forte à fond de train contre le TGV de PSPP, on se demande s'il n'y aurait pas dû, doser les choses un peu autrement, poser des questions, mettre des exigences plutôt que de dire qu'il tirait complètement la plug en cas de victoire. Pour la région de Québec, très intéressant, le Parti conservateur qui est premier, qui trône au sommet, plus 3 points, donc continue une croissance. La CAQ, plus 10 points dans
c'est
les sondages
fou.
Depuis le dernier sondage.
Mais quand j'ai
Ça marche,
hein? Souvent comme hypothèse que les Québécois votent avant tout pour un chef ou une chef.
Ben, ça prouve ça, là.
Ça prouve ça parce que tu es dans la capitale nationale, je vais refaire la même blague que j'ai faite la dernière fois. Là. Je regarde par la fenêtre puis je vois pas de changement depuis 8 ans. Là.
Ben, c'est ça. C'est ça, c'est le stationnement de chez Boulevard à Le Bourgneuf, là, peut-être.
Non, mais je regarde au loin, là, puis je vois pas de changement. Le centre Vidéotron existait déjà, puis t'sais, l'autoroute n'a pas changé.
Puis là, la CAQ est rendue à 26 % puis le PQ qui chute de 9 points. Donc, tu vois que c'est vraiment... Bon, les conservateurs gagnent quelques points aussi, puis les libéraux en perdent également, là, moins 5 dans la région. Donc, on est toujours dans le bleu dans la région de Québec, mais vraiment, là, c'est la CAQ et le Parti conservateur qui se font la guerre pour l'instant. Ça faisait longtemps que le PQ n'avait pas été populaire dans la région, il faut le dire, là, depuis les années 90.
Exactement, puis là, ça a tendance à rebaisser maintenant que ça s'est restabilisé pour la CAQ, parce que c'est le 9 % perdu au PQ, mais c'est le 10 % gagné à CAQ. Là.
Absolument. Donc, la CAQ, disons, les gens sont prêts à redonner une chance à une CAQ maintenant qu'on a changé de chef à sa tête. Donc ça, ça va être intéressant à suivre, mais ça peut, encore une fois, bouger. Parce que le Parti libéral est capable de performer aussi dans la région. Encore faut-il qu'il propose quelque chose. Un Parti libéral, peut-être avec un programme un peu plus à droite économiquement. On sait que c'est un terreau fertile à Québec pour certains conservatismes économiques.
Je regarde, puis c'est correct, là. T'sais, on va chercher des noms intéressants. Farnell, Morissette, Achereau, Gilly White dans Jean Talon, et là, c'est Alain Chandonnet dans La Pelleterie.
Ouais, mais le problème, c'est ce que tu disais. Le problème, pour l'instant, à mon avis, c'est le chef.
Oui. Et aussi.
Et là, l'enjeu, c'est que malheureusement, j'ai absolument rien contre lui, là, parce que, tu sais, on en parlait là, justement la semaine passée. Moi, j'ai aucune décision de prise au moment où on se parle.
Comme
moi
beaucoup de Québécois, d'ailleurs.
Je sais pas où me pitcher en ce moment, pas en tout. Puis je vais laisser la campagne aller. Puis, par contre, chose certaine, le leadership de Mme Fréchette shine beaucoup plus dans les dernières semaines que celui de M. Milliard. Ouais. Fait que même si tu as d'excellents candidats, ton point de tout à l'heure est excellent. On va regarder le chef en premier. Il y a une espèce d'effet pyramidal.
En effet.
On va regarder le chef en premier, puis après ça, on va s'intéresser aux députés qui sont sous le chef.
Parce qu'aussi, moi, ce que je vois là-dedans, dans ces trois candidats-là, c'est que tu as un progressiste en Farnell Morissette. La preuve, c'est que c'est Mika Horswell de Québec solidaire, Transition Québec, qui va être sa chef de campagne. Tu as une fille économique en Julie White, puis ce matin, c'est disponible sur le blvd.fm avec Alain Chandonnet. Tu as un anti-troisième lien. Fait que là, c'est quoi, le Parti libéral?
C'est quoi le fil conducteur?
C'est ça. Qui est le Parti libéral?
Mais on le sait pas. Moi, ça me fascine, les gars. Je sais pas si ce parti-là est de centre-droite, de centre ou de centre-gauche.
On n'a aucune idée.
Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'économie?
On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec l'économie. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec la langue. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec l'identité. On ne sait même pas ce qu'ils veulent faire en gestion de
finances publiques. Pour l'identité, ça commence à être clair.
L'identité, rien.
Reculer.
C'est les deux langues officielles.
Mais
c'est
le gauche et la droite, l'économie, moi, je trouve ça... Pour un parti qui dit « moi, je suis le parti de l'économie », OK, mais quoi?
C'est notre premier parti, je pense, dans l'histoire du Québec, qui est Dolby Surround.
Oui.
Ça vient de partout, là.
Parce que Charles Milliard...
C'est une expérience qu'il nous propose.
Mais on reprochait ça à la CAQ.
Exactement. Raison, mais alors que là, je trouve la CAQ bien plus enlignée dans nous autres. On va défendre l'identité du Québec. On va défendre les valeurs identitaires. Bon, immigration, les seuils, etc. Mais il n'est pas question de séparation. Puis là, Christine Fréchette a dit, regardez comment ça marche, mon approche. Je viens d'aller chercher 10 milliards à Mark Carney. Me semble, la CAQ a été très girouette sur François Legault à gérer au sondage.
Tu trouves moins girouette un peu, là?
Ben, moi, je trouve.
Attends, là, il n'a pas commencé à annoncer des candidats. Parce que est-ce qu'il va y avoir un fil conducteur? On
en
va voir.
Ça.
Mais les libéraux à Québec, c'est problématique. Puis surtout, moi, je pense que Charles Milliard avait du potentiel de plaire à Québec. Premièrement, il connaît bien Québec.
Ben oui.
C'est un gars qui a été très présent dans les dernières années, parle avec beaucoup d'acteurs économiques quand il était à la FCCQ. Il y a un potentiel, mais. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de clarifier, là, c'est quoi le projet? On veut savoir c'est quoi le projet.
Exactement.
Les libéraux, des fois, j'ai l'impression qu'ils pensent que leur projet, c'est de gouverner, puis que ça leur est dû, puis ils n'ont pas d'efforts à faire pour nous convaincre. Ben non, désolé, ça marche plus de même. On n'est plus comme dans les années 90 où il y avait deux partis.
Ben, t'as raison. M. Chandonnet nous a dit ce matin, ouais, mais les libéraux, on est le parti politique qui a la plus longue histoire au Québec, mais encore.
C'est l'avenir qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Comment ça s'appelait le restaurant là, où on était servi dans le noir, là, comme si on voyait pas le sixième sens?
Oui.
C'est ça.
Oh,
je pense que c'est un peu ça que les libéraux. Ils veulent nous proposer une expérience.
C'est ça.
Antonine, Jeff, là,
fermez les yeux.
Oui, c'est une expérience. Fermez les yeux. Laissez vos autres sens là, aux aguets là, et vous verrez bien.
C'est tellement drôle parce que moi, j'ai essayé d'aller dans ce resto-là une fois.
Ouais.
J'ai fait une crise de panique après une minute, puis je suis ressortie de bord. C'est pas vrai que je vais ouvrir ma bouche puis me mettre des affaires que je vois pas dans ma bouche. Fait que ça arrivera pas que le Parti libéral non plus, comprends-tu?
Écoute, mais c'est ça. Ceux qui sont prêts, mettez les lunettes 3D, assoyez-vous et vivez l'expérience.
Hey, bonne question d'un auditeur pour terminer le caucus, Antonine. La région de Québec a régulièrement été au pouvoir. Les libéraux ont voté libéral, les libéraux étaient au pouvoir. Pif, centre Vidéotron. La CAQ est au pouvoir, on a une vague caquiste. Là, Si on vote PCQ, on va être dans l'opposition. Si on vote CAQ, on risque d'être dans l'opposition parce que présentement, on est plus dans un PQ majoritaire, minoritaire, parce que le PQ va faire une radio dans les régions.
Oui, mais...
On voit ça comment?
Ben, c'est vrai. Puis d'ailleurs, le fait de perdre la région de Québec pour le PQ, c'est ça qui fait que la majorité leur échapperait.
Exactement.
Là. Donc, c'est important. J'ai fait un saut quand tu as dit quand les libéraux étaient au pouvoir sans Vidéotron, parce que, je veux dire, moi, j'étais au PQ à l'époque et le parti a failli imploser à cause de ça. Et
t'as
du
raison.
Diantre que nous n'avons jamais eu de remerciements pour avoir tellement poussé pour ce mot, t'as dit.
C'est ce que j'ai vu
Vidéotron.
Dans ta face. T'as raison.
C'est un traumatisme
Pierre
chez moi.
Pierre Curzi. Louise Baudouin, M. P. deux autres, là, par cœur. Oui, c'est là que Jean-Martin Hossan est devenu...
Oui. Quelle époque!
Ben, c'est là que Jean-Martin Hossan, dans le fond, on a appris qui était Jean-Martin Hossan. D'ailleurs, au Bye Bye, il y avait un excellent sketch.
C'était un enfant qui le jouait, c'était très bon.
C'était malade.
Mais oui, effectivement...
Il a formé Option Nationale, ça a super bien vieilli, Option Nationale. Ça a bien été.
Écoute, c'est un beau projet. Ça a été une belle aventure pour bien des gens. Avec Sol, avec Evelyne Baudin, avec plein de gens, avec Catherine Dorion, etc. T'as raison, effectivement, puis l'auditeur a raison que...
J'avais oublié Catherine Dorion qui était option.
Ben oui, t'avais oublié. Comment oublier?
Comment oublier Catherine?
La mémoire est bien faite des fois.
La mémoire sélective. Oui. Effectivement, ça se pourrait que la région vote pour être dans l'opposition, mais moi, ce que je vois à Québec maintenant, c'est une région qui est assez morcelée, qui a beaucoup de couleurs, tu sais... pendant des années, c'était rouge et bleu. Maintenant, on a des députés de Québec solidaire. Moi, je pense qu'on va avoir l'entrée de députés du Parti conservateur, c'est sûr. Des comtés libéraux, des comtés péquistes. C'est extrêmement varié. La région de Québec, c'est pas du tout un bloc monolithique comme on peut voir, par exemple, à Montréal.
Je termine le caucus en disant que je vais me présenter au Parti libéral du Québec de cette façon-là, Charles Milliard. Bonjour, M. Milliard, je suis fédéraliste, mais j'aimerais qu'on taxe plus les riches. Je vais te dire, t'es fédéraliste, viens-t'en! C'est ça, le Parti libéral, c'est un parti fédéraliste.
Puis si moi, je fais la même chose, mais que je dis, je pense qu'on devrait baisser les taxes.
Il va dire, viens-t'en.
En marché, t'es fédéraliste.
Okay. En vrai, t'es fédéraliste.
C'est juste ça, finalement.
Il écoute pas la deuxième phrase.
T'es contre le référendum, that's it.
Oui, c'est ça. Embarque dans l'autobus du non
Quel
avec
beau
moi.
Projet.
Quel beau projet de société.
C'est pas un projet. C'est une expérience. C'est une expérience. Voyez-le comme ça.
Après la pause, Pascal Renaud, président pour la région de Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens. On revient sur cette sortie de Christian Dubé avec son document de 80 pages. Comment réformer le système de santé?